Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE, et pas seulement, on se retrouve aujourd'hui pour parler du show Noir et Or, le show NXT du 1er juin, toujours au Capitol Wrestling Center, toujours dans le Performance Center habilement maquillé, pour m'accompagner dans cette analyse, dans cette étude de ce show des rookies, l'homme fort de catch-up, ce bon vieux papy, comment ça va papy?
Bonjour mes enfants, bonjour Inksai, mais oui ça va et toi?
Ça va bien, je suis heureux d'être de retour.
Mais oui, ça faisait longtemps,
mais oui, mais tôt ou tard, on revient toujours à catch-up. Je suis content de voir que tu n'es pas trop ronchon aujourd'hui.
Mais non, j'ai survécu à la canicule.
T'as survécu à la canicule, voilà. On s'est bouffé les orages, la grêle, le soleil, on a eu tous les temps, en quelques temps. Mais effectivement, on n'en a rien à foutre. On est venu pour parler de NXT. Alors, on a quand même, je crois, pas mal de choses qui sont en ligne, hein, mon bon papy. On va peut-être faire la retap avant de commencer l'analyse. Alors, j'ai pas été convié à cette soirée, mais il y a eu un anniversaire des 5 ans qui a été réalisé. Donc ça, vous pouvez toujours aller l'écouter. On répond à toutes vos questions.
Soirée privée.
On a également un nouveau You Talk Too Much qui est sorti avec Axel, le patron des Cahiers du Catch. Légendaire, dont on est tous un peu les enfants illégitimes.
Et oui, allez écouter papa.
Voilà, c'est tonton Chris qui a déterré hein, ce dinosaure du monde des fans de catch français qui va vous parler un petit peu de la jeunesse de ce site et puis un peu comment ça se passait quand on était fan de catch à une certaine époque et qu'on aimait bien écrire de longs textes pour délirer un petit peu sur l'univers du catch. Voilà, tout ça c'est You Talk Too Much en ligne. On a des gros choses aussi qui arrivent, hein, puisque la semaine prochaine, vous aurez l'interview de Tristan Archer, toujours par tonton Chris.
Bim !
Bam ! Et voilà, l'actuel number one contender de la SV. Il est aussi la fédération belge. Bodizoy, voilà, je le tiens.
Bodizoy,
grosse actu pour Tristan Archer, l'homme fort du catch français, hein, le catcheur français actuel. Il vous raconte tout dans son émission avec Tonton Chris. Je vous recommande. Hein, souvenez-vous qu'il avait participé au Cruiserweight Classic hein, sous le nom de Clément Petiot, Tristan Archer. Il a fait un petit tour du côté de la WWE. Il a bossé aussi à la Progress. Il va vous raconter tout ça. Et oui, on met les petits plats dans les grands en ce moment hein, pour du niveau de catch-up. Donc abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Comme ça, si vous cliquez sur la petite cloche, tout ça sachant que c'est gratuit, et ben vous serez informé dès que toutes ces belles choses sortiront. On a aussi évidemment une review de Monday Nitro. Yerem est aux manettes, je crois, accompagné de Tonton ou de Zygote, un des deux.
C'était Tonton de mémoire. Hein.
C'est Tonton de mémoire, ok. Voilà, le patron IRM et le tonton Chris qui vont vous parler de Monday Nitro et de tout ce qui s'est passé. Alors on a encore eu de belles hein, avec des licenciements en série puisqu'on a perdu quand même Braun Strowman, Murphy, Aleister Black, Ruby Riott, Santana Garrett. Tiens, on parle de NXT, Santana Garrett elle traînait des fois à NXT mais pas
des
souvent
fois, ouais.
Hein, quand tout le monde était malade, on envoyait Santana Garrett. Ben, on ne l'enverra plus puisqu'elle a été virée.
Et Lana.
Et Lana, putain, Lana a été virée.
Ah, quelle déception.
Eh oui, alors on en reparlera sûrement dans un comptoir du catch assez prestement, j'ai envie de dire. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses à la WWE. On n'en a peut-être pas parlé. Mais bon, on va vous laisser tout ça en suspens, à moins que tu aies quelque chose à dire de spécial, papy.
Non, mais effectivement, je pense que on aura l'occasion d'en débattre plus tard de ces départs. Et puis voilà, quoi. De toute façon, il concerne un peu moins NXT. Je ne sais pas s'il y aura une charrette NXT spéciale qui se prépare. Parce que Santana Garrett, elle était NXT, mais en même temps, à chaque fois, elle est proche du main roster, elle est proche du main roster. Bah, oui. Voilà, elle est tellement proche qu'elle s'est fait virer. Cadeau.
C'est ça. Elle était dans les limbes entre NXT et le main roster. Et finalement, elle ira plutôt à Poland Pro Wrestling pour des matchs assez phénoménaux. Donc voilà, il y a du potentiel pour la All Elite Wrestling de recrutement, hein, des enfants.
Surtout côté garçon.
Surtout côté garçon. Même s'ils ont quand même besoin de pas mal de nanas de leur côté.
Mm-hmm.
Alors, on n'a pas, fait de review du dernier NXT. Et peut-être du précédent, je ne sais pas. Non, on en a
je crois qu'on en a loupé deux, effectivement.
Deux, d'accord. Donc quand même, les grosses infos, il faut savoir que Bronson Reed a battu Johnny Gargano et qu'il est désormais le champion nord-américain.
Tout à fait, dans un match en cage, si je dis pas de bêtises.
Un match en cage, voilà. Aucune chance pour Gargano de s'échapper. C'est une théorie. Hein, son acolyte du clan The Way n'a pas pu l'aider. Et c'est Bronson Reed qui est votre nouveau champion nord-américain. Le titre qui sert un petit peu à rien. Mais c'est quand même bien d'avoir une ceinture autour des grosses hanches de Bronson Reed.
Et c'est mérité pour lui.
C'est mérité pour lui, on l'aime bien, Bronson Reed. On a une autre information quand même capitale, c'est la victoire de Karrion Kross sur Finn Bálor.
Oui, bien sûr.
Voilà. Le Prince s'est fait éclater par Karrion Kross. Donc Karrion Kross, toujours dominateur, toujours champion. Et puis, je crois que c'est à peu près tout hein, de ce qui s'est passé de vraiment intéressant. S'il y a d'autres choses, on en reparlera dans cette review NXT du 1er juin, où il se passe quand même pas mal de choses. On a pas mal de trucs au programme. Une défense du titre tag team, déjà. MSK affronte Legado del Fantasma. On aura une triple frite plutôt pour déterminer un number one contender face à Karrion Kross. Ça va opposer Pete Dunne à Kyle O'Reilly et Johnny Gargano, qui est toujours là. Voilà. Hein, il a perdu.
Ouais, exactement, ça fait du bien de perdre. Comme ça, t'es directement dans un match qualificatif derrière.
Voilà, il a sa chance pour le championnat. Le championnat ultime de NXT. Et il y aura un open challenge de Kushida, le champion cruiserweight. Qui n'a peur de personne. Donc voilà le programme chargé pour NXT. Alors, on ouvre les hostilités avec déjà un petit rappel de la défaite de Finn Bálor face à Karrion Kross. Un petit package vidéo. Et on nous annonce donc la triple frite pour ce soir pour le first contender. Gargano, O'Reilly, Pete Dunne. Donc, c'est d'ailleurs ce match-là hein, qui ouvre le show. Johnny Gargano est accompagné de théories jusque sous le titantron parce que comme un bon heel qui se respecte, Gargano va catcher seul, il a pas besoin de l'intervention de son ami. Donc il y a Pete Dunne qui est déjà dans le ring aussi, qui est arrivé juste avant, et le troisième c'est bien Kyle O'Reilly qui arrive, tout ça de manière assez sobre. Le match commence, c'est un gros match un peu façon Ring of Honor hein, j'ai envie de dire, avec des prises en dessous les sens, des enchaînements de soumissions, de super kicks qui claquent. Il y a personne qui s'impose vraiment. Hein. Il y en a un qui fait une soumission, l'autre qui vient dessus pour faire une soumission, un troisième qui revient faire la soumission, puis on s'échange comme ça, puis après on s'esquive, on se contre. Tout va très vite. Ça, c'est très très chargé comme match. Mais finalement, il n'y aura pas de vainqueur puisque débarque Adam Cole, baby. Et oui, Adam Cole, l'ancien champion NXT, qui avait perdu face à Kyle O'Reilly dans un match dantesque. Ils avaient été poussés dans leurs limites. Il est de retour et il tue tout le monde. Hein. Il défonce la gueule de tout le monde, que ce soit Gargano, que ce soit Pete Dunne, que ce soit Kyle O'Reilly. Et il va être accompagné, même escorté, j'ai envie de dire, à l'extérieur du ring, par les officiels, dont ce bon vieux William Regal. Et c'est ainsi que se termine ce triple frit qui était censé déterminer un first contender. Il n'y aura pas de gagnant, mais il y aura surtout le retour d'Adam Cole, baby. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ouverture de show?
Eh ben, j'étais assez déçu par cette ouverture de show. Malheureusement, en fait, alors déjà, j'étais déçu du line-up parce que là, j'avais l'impression d'avoir tous les losers, les mecs qui avaient perdu contre Finn Balor, qui avaient tenté de lui prendre sa ceinture. On avait décidé de les rassembler ensemble pour qu'ils aillent se battre entre eux. C'est des gueules qu'on voit un peu trop souvent dans le main event et pour perdre en plus, ces gars-là.
Ouais.
Donc, moyennement motivé. Gargano, comme tu l'as dit, il est heel, mais il vient tout seul. Kyle O'Reilly, c'est un peu le face du trio parce que c'est Dunn et heel aussi. Il fait absolument rien de plus ou moins qu'un autre, qu'un de ses opposants. J'arrive pas à distinguer qui est le face, qui est le heel quand ils se battent à trois. Mmh. Et le match, c'est ça, les trois teignes qui se foutent des coups, puis qu'on a déjà vu 100 fois, et ces trois gars en slip, Dunn n'est pas en slip. Mais voilà, j'arrive même pas à les distinguer. Voilà, c'est spectaculaire, mais ce sera un match parfait de house show où les gars ils envoient du spectacle, c'est bien pour le public, etc. Par contre, c'est dans un weekly, c'est il y a vraiment rien d'original, c'est des trucs que t'as vu 100 fois. Et puis moi, il m'intéresse pas. Donc l'intervention de Cole, une fois qui, parce que finalement, il tape les trois, pareil, de manière totalement indifférente, alors qu'il est censé être un peu plus en rivalité qu'Aurélie, mais non, ça change rien. Il va taper les trois de la même manière. Et puis voilà, en fait, c'était un peu symbolique de ce que je ressentais à rien qu'à voir l'affiche, c'est qu'on avait trois gars qui sont qu'on n'arrive pas à distinguer, alors que c'était censé avoir des heels, des faces, des héros, d'un mec avec un clan, etc. Mais t'as tellement rien qui les distingue. Donc, plutôt déçu de tes entre matières.
Ouais, c'est un peu l'arrivée salvatrice plutôt de Adam Cole. Baby, parce que effectivement, comme moi je suis tout à fait d'accord avec toi, ça ressemblait beaucoup à un match d'exhibition entre les trois. Gargano, il souffre toujours de son booking très mauvais de heel qui triche jamais quand c'est l'heure de tricher, quoi. Il est juste là, finalement, il fait le clown. C'est ce qui en fait peut-être le heel. Pete Dunne, il est toujours dans les limbes depuis un moment donné. Kyle O'Reilly, visiblement, son push, ils sont en train de tirer le tapis juste en dessous, quoi. On pensait quand même que Kyle O'Reilly allait essayer de monter jusqu'au main event pour affronter Karrion Kross. Moi je voyais ça comme ça.
Ah moi aussi, hein, carrément. Je pensais vraiment que c'était son temps et là depuis deux semaines, de toute façon il fait plus rien.
Il a un coup de pourri, peut-être pour ça, son gros coup de tout enflé. Ah. Visiblement, je pense pas que c'est l'heure finalement de son énorme push. Et puis on voit quand même les limites des trois gars, quoi, à ce moment donné, quoi. J'adore Pete Dunne, mais il y a des moments où il faisait n'importe quoi dans le ring, en particulier pendant la pub. C'est plus le genre de match qu'on voit à la All Elite Wrestling avec un côté un peu factice comme ça, moi je trouve, un peu fake. Ouais.
Forcément un compliment.
Non, c'est pas du tout un compliment parce que la technique fait pas tout. Je veux dire, le in-ring fait pas tout. On est quand même pour. Il faut qu'il y ait de la crédibilité quand même dans le match. Et des fois, dans ce type de match où les mecs ils enchaînent des trucs spectaculaires, des fois la crédibilité elle s'en va un petit peu. Hein. On verra que ça n'est pas fini de toute cette histoire. Il se passera encore des trucs derrière. Pour l'instant, on va aller voir les femmes. Puisque Ember Moon est dans le ring et elle défie clairement Raquel Gonzalez. Elle dit vas-y, viens, ramène ton cul. On va s'expliquer. Alors je sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Je suppose qu'ils ont dû s'engueuler dans les épisodes précédents. Shotzi Blackheart est peut-être blessée. Quelque chose comme ça.
Elle s'est fait attaquer la semaine dernière par Raquel et par Raquel surtout, notamment en fait. Au match qu'ils ont eu, je sais plus, c'est un match tag team, oui. Et ils ont perdu, je crois, de mémoire, Raquel et Dakota, donc du coup, elle n'était pas contente.
D'accord. Donc en tout cas, ce soir, c'est Ember Moon qui n'est pas contente. Elle défie Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez qui débarque, la championne. Elle arrive au ring et elle se fait casser la gueule maison par Ember Moon, qui va à 200 à l'heure, qui lui détruit la gueule. Les officiels sont obligés de venir pour les séparer. Ember Moon est là au milieu du ring. Elle continue à défier Raquel Gonzalez. Là, on va s'expliquer. Hein. Je te pète ta gueule. Et finalement, elle se fait attaquer dans le dos par Dakota Kai, la copine de Raquel Gonzalez. C'est finalement Ember Moon qui se retrouve au tapis. On va peut-être aller jusqu'au bout de cette histoire. Un peu plus tard, il y a une interview d'Ember Moon, encore une fois, dans les vestiaires, où elle explique qu'elle va s'occuper, dans un premier temps, de Dakota Kai, évidemment. Et puis ensuite, elle ira chercher le titre de Raquel Gonzalez à TakeOver, parce qu'il y a un TakeOver in Your House là, qui est prévu dans pas longtemps. Mais voilà, elle est prête, elle a compris comment que ça se passait. D'abord, on passe par Dakota Kai et après Raquel Gonzalez. Et d'ailleurs, ce sera la semaine prochaine Dakota Kai contre Ember Moon. Qu'est-ce que tu as pensé de ce développement de la scène féminine?
Alors, le comment dire ça? Le développement, je vais donner le côté positif. Le côté positif, c'est que du coup, on va se diriger, je pense, vers Ember Moon, Raquel Gonzalez, qui pourrait être pas mal pour le coup, comme rivalité. Et bien aussi pour Raquel qui a besoin, on en avait parlé quand on a vu le sa rivalité avec Mercedes Martinez, mais Raquel Gonzalez a besoin d'enchaîner les matchs, besoin d'enchaîner les rivalités pour justement affiner un peu son in-ring. Après, je trouve toujours dommage qu'elle ait besoin de Dakota Kai pour s'en sortir, quoi. Alors qu'elle est quand même censée être monstrueusement physique. Je trouve qu'elle est souvent en galère, Raquel.
Elle s'est
Donc
fait
voilà,
péter la gueule, hein, Raquel
voilà,
Gonzalez.
là encore une fois, c'est Dakota qui vient faire le safe, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, ça me perturbe un peu de voir une fille aussi grande et aussi présentée comme aussi forte. Faire péter la gueule aussi rapide, aussi régulièrement. Voilà, j'y arrive.
Alors après, Ember Moon, c'est une ancienne championne NXT, hein.
Ah oui, bien sûr. Mais bon, c'est souvent, j'ai l'impression qu'on la voit en difficulté, Raquel. Après, là, c'est le moment où elle reprend le dessus, mais souvent, elle est présentée quand même, bah voilà, comme pas encore super puissante, alors que bon, son physique.
Elle a quand même de quoi se la raconter et on pourrait l'imposer comme vraiment une masse indestructible. Mais là, effectivement, elle s'est fait bien rembarrer par Ember Moon. J'étais impressionné. Et concrètement, sur papier, quand même, un Dakota Kai Ember Moon, ça peut être quand même être un très très bon match, hein, parce qu'on sous-estime un petit peu Dakota Kai qui a NXT quand même. Pas toujours. Enfin, toujours. J'ai pas de grand match référence de Dakota Kai à NXT. Mais en tout cas, sur le circuit indépendant, notamment à la Progress et à NXT UK, elle avait fait quand même des matchs énormes. Je trouvais très impressionnante, moi, quand je la voyais dans le circuit indie. J'aime beaucoup Ember Moon aussi. Donc, du coup, je suis plutôt hypé pour ce match la semaine prochaine. Et puis, Ember Moon contre Raquel Gonzalez, c'est plutôt aguichant aussi. Donc, effectivement, c'est pas Raquel Gonzalez qui ressort la plus. Victorieuse, plus gras, plus classe, j'ai envie de dire, de cet affrontement, mais en tout cas, moi, je suis hypé pour la suite.
Oui, ça devrait faire une série de bons matchs, normalement.
Ouais, clairement. Clairement, et puis il faut que. C'est toujours sympa de voir Raquel Gonzalez évoluer comme ça. Devenir de meilleur en meilleur. Et clairement, je l'attends quand même le match de la semaine prochaine. Dakota Kai et Ember Moon. Ça peut donner. Elle est quand même très très douée, Ember Moon, dans le ring. Hein. On l'a oublié parce qu'elle était blessée pendant un moment. Puis après, dans ces matchs tag team là, où elles en faisaient beaucoup beaucoup. Mais Ember Moon en solo, c'est quelque chose. Hein. Donc.
Et puis elle est mieux là quand même. Hein. Elle a eu un retour à NXT où c'était un peu. Je crois qu'elle était un peu limite out of shape.
Ouais,
Elle
ouais, ouais.
est, là, elle est mieux. Elle bouge bien. Elle fait des bons matchs. Elle a souvent la garde de Josie Blackheart qui, elle, au contraire, fait un peu n'importe quoi. Mais voilà, elle mène bien. Elle est vraiment mieux depuis quelques mois là.
Ouais. Bah, elle ressort d'une grave, grave blessure, hein, quand même. C'était la rupture du tendon d'Achille. Donc, généralement, ça, on n'en revient pas indemne. Elle avait beaucoup de mal. Je me souviens qu'elle avait fait une interview où elle expliquait qu'elle n'était pas sûre de pouvoir revenir à 100%. Mais ça fait plaisir de la revoir là. Elle a l'air vraiment en très très bonne forme. On va continuer sur des petits gars que j'aime bien. Legado del Fantasma. Legado del Fantasma, qui nous fait une petite promo pour ce soir, pour leur match contre les MSK, les Mesquines,
Les
les
mesquines.
champions. Voilà, bon, rien de spécial, hein. Ils disent juste qu'ils vont gagner. Et après, on a ce bon vieux LA Knight qui arrive, qui fait une petite promo au micro en arrivant en ring. Il se fout de la gueule de son adversaire du soir. Son adversaire du soir qui est comme tous les soirs, Jack Atlas. Ça doit faire 5 ou 6 fois qu'ils s'affrontent, non? Mais avant que le match commence, on va aller sur le parking. On est encore dans un NXT où il se passe plein de trucs à la suite, hein. C'est un peu un gros bordel. Sur le parking, il y a Everrise, l'équipe tag team qui apparemment est sur les réseaux sociaux en ce moment. Il s'embrouille, Everrise, avec la bande à Isaiah Swerve Scott. Je me souviens plus du tout du nom du clan, mais en tout cas, il s'embrouille avec eux sur le parking.
Ouais, je les appelle le nom aussi, je devrais pour l'instant.
Ouais, bon, ils auront le temps de nous le rappeler, hein, comment ils s'appellent. Y a aussi Drake Maverick qui est là, qui s'embrouille aussi avec Isaiah Swerve Scott, là, hein, tu m'appelles le clown, je vais te casser les dents, etc., etc. J'ai pas tout compris, mais au final, il y a Killian Dane qui s'interpose entre Swerve Scott et Drake Maverick, même si Drake Maverick dit qu'il a pas besoin de l'aide de personne pour péter la gueule de Isaiah Swerve Scott, ce qui est sûrement possible, hein, parce que Isaiah Swerve Scott, il a eu quand même beaucoup de mal à battre Leon Roof.
C'est
Donc, je
vrai.
pense qu'il se fait aussi péter la gueule par Drake Maverick, il n'y a pas de souci. Mais bon, visiblement, il y a un truc qui se passe, une rivalité qui commence entre la bande à Swerve Scott et Killian Dane et Drake Maverick. Est-ce que ça te hype, cette rivalité?
L'épée sera un bien grand mot, mais après, il faut bien que cette bande ait une première petite rivalité. Ouais, quand Dane est. Et machin,
Et Drake
ils
Maverick.
sont Maverick, voilà, ils sont assez bas dans la carte pour pouvoir faire le job. Bon, après, voilà, hype, voilà, comme je dis, hype sera un bien grand mot, hein, parce que ça reste très très bas comme affaire.
Ouais, ça remplira le temps d'antenne, on va dire. Killian Dane qui a échappé à la charrette, hein, quand même. Tout comme bah, Maverick, il faut dire qu'il avait pleuré sur Twitter. Donc pour
Oui, il a
l'instant,
déjà pris
eux.
une fois dans la gueule la charrette.
Ouais, hein, et voilà, il est quasiment invincible. Voilà, bon, bah, c'est un peu la low card NXT là. Hein.
Tout à fait.
Allez, on revient au match donc qui a lieu entre LA Knight et ce bon vieux Jack Atlas. Alors, LA Knight, il se revendique comme le protégé de Ted DiBiase le Million Dollar Man, hein, qui arrive au ring, enfin du moins sous le titantron pour regarder le match. Il regarde son présumé protégé LA Knight dans le ring, affronter Jake Atlas et avoir bien du mal à prendre le dessus sur un Jake Atlas qui est hyper motivé, qui saute dans tous les sens, qui arrive à contrer toutes les attaques d'LA Knight et notamment les tentatives de Million Dollar Dream de LA Knight, la prise du sommeil de Ted DiBiase. Ah, apparemment, il veut récupérer ce finisher, LA Knight, mais il n'arrive pas à le placer. Le match est vraiment disputé jusqu'à l'arrivée de Cameron Grimes qui vient discuter avec Ted DiBiase. Ça papote et ça déstabilise LA Knight qui est dans le coin du ring en train d'essayer de porter une avalanche ou un superplexe à Jake Atlas. Et bah, LA Knight va être repoussé par Jake Atlas justement parce qu'il est un petit peu déstabilisé par ce qui se passe à côté. Et il va tomber directement les couilles sur les cordes, hein, ce pauvre LA Knight. Là, Jake Atlas en profite pour faire une espèce de DDT de majorette là, sur la troisième corde. Il fait une petite roue et puis il piège LA Knight dans un DDT. C'est assez impressionnant. LA Knight ne se relèvera pas. Hein, c'est la victoire de LA Knight. La victoire, pardon, de Jake Atlas.
Oui, grâce.
Voilà, au grand dégoût de Ted DiBiase qui finalement n'est pas convaincu par LA Knight et il va même abandonner le pauvre LA Knight en pleurs au milieu du ring. On reviendra un petit peu sur Ted DiBiase après. Qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement qu'on a déjà vu et revu entre, je pense, hein, dans mes souvenirs, entre Jack Atlas et LA Knight? Et qu'est-ce que vient foutre Cameron Grimes dans cette histoire, même si on sait qu'ils sont en rivalité plus ou moins avec Ted DiBiase. Enfin, j'ai pas tout compris,
Ah, bah
mais...
je vais te resituer un peu parce que du coup, c'est vrai que comme on n'a pas reviewé les dernières semaines, peut-être que c'est pareil, nos auditeurs ne sont pas forcément au courant. Effectivement, il y a eu, bah, en fait, Cameron Grimes était un peu en rivalité avec Ted DiBiase ces dernières semaines. Et puis la semaine dernière, il a fait un petit segment un peu larmoyant où il expliquait que bah, finalement, il comprenait pas pourquoi Ted DiBiase se foutait de ta gueule parce que bah, lui, son rêve, c'est de devenir comme lui. Donc il a fait un espèce de face turn en fait, Cameron Grimes.
Ah, il est gentil
à
maintenant.
Occasion, il est. Bah, en tout cas, le mec de la Sono de la WWE a mis d'un coup les encouragements en sa faveur. Donc moi, j'ai compris qu'il voulait nous faire passer le message qu'il faisait un face turn.
Okay.
Et justement, en fait, LA Knight est intervenu pour trahir un peu, se foutre la gueule un peu de Cameron Grimes et puis lui rester heel et puis l'attaquer. Et sous les rires de Ted DiBiase, donc on s'était dit, bah, en fait, voilà, c'est LA Knight le successeur de Ted DiBiase parce qu'il disait qu'il cherchait un gars qui prendra un peu son rôle, quoi. Et donc là, cette semaine, du coup, il venait avec Ted DiBiase pour en disant, c'est je suis son poulain, LA Knight, mais Cameron Grimes s'est intervenu, justement pour se venger de la semaine dernière. Bon, ça vole pas très haut comme affaire. En gros, ils se battent pour les faveurs de Ted DiBiase, c'est ça qu'il faut retenir. Et Cameron Grimes est le face de l'histoire. C'est aussi la surprise à retenir du moment. Donc voilà. Puis pour mon avis, je ne suis pas un grand fan de Cameron Grimes. Là, je vais dire que je laisse sa chance au produit puisqu'il le tente en face. Et pour moi, c'est la première fois, je crois, qu'il est face depuis qu'il est à NXT. On va voir ce que ça donne. Je suis pas emballé des masses. Mais bon, au moins on se disait ça ne bougeait pas du tout avec Ted DiBiase. Là, au moins, ça commence un petit peu à bouger. Puis voilà, et le fait qu'il tente Kevin Grimes en face, c'est peut-être une. Au moins, ça nous change un peu. Donc, ça mérite le coup d'œil, on va dire.
Ouais. Ils auront tout tenté avec Cameron Grimes. Mais dites-moi. Si vous voulez quelqu'un pour reprendre son rôle, la DiBiase, pourquoi il n'est pas venu il y a 10 ans quand il y avait son fils qui catchait?
Je sais pas, moi, il était peut-être au Bahamas avec des gonzesses. Qu'est-ce que je veux que je dise, moi?
Il avait plus chose à foutre.
Ils avaient envoyé Virgile à l'époque. C'était pas mieux, hein?
Ouais, c'est vrai, Virgile. Ouais, parce que s'il faut. J'arrive pas à trouver le mot, mais comment on appelle un gars qui reprend le job de son père là.
Un successeur.
Un successeur, héritier. Voilà, un héritier. Putain, deux mots que j'arrive pas à trouver. Oui, pourquoi il était là, Ted DiBiase Junior, à une époque.
Et il catchait mieux que.
Que les trois réunis, là. Voilà. Parce que moi, je me disais en voyant ça, comme je pensais que Cameron Grimes était encore heel. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être Jack Atlas qui va être le successeur de DiBiase.
Ah, pourquoi pas? Parce qu'en plus, il a gagné les matchs contre les deux jeux. Il avait fait un match aussi contre Cameron Grimes. Je ne sais plus s'il a gagné ou perdu, mais c'est pas impossible.
Celui qui a le moins de personnalité, c'est quand même lui. Donc, il aurait besoin d'un bon DiBiase à côté de lui. Si vraiment DiBiase va venir en tant que manager, mais il est peut-être là juste pour quelques passages.
Ouais, j'ai peur que ce soit un one-shot. Hein. Je ne sais pas pourquoi.
On sent ça, une dernière tentative d'essayer de faire quelque chose avec Cameron Grimes. Et puis après, retour à Pôle emploi. Hein.
Après, charrette. Hein.
Charrette. Hein. Il y en a un autre qui avait failli échapper à la charrette, c'est ce bon vieux Oney Lorcan qui est en train de s'énerver dans les vestiaires. Et il va s'embrouiller avec Austin Theory. Hein, parce qu'Oney Lorcan, il n'est pas content que Adam Cole soit venu interrompre le match et écouter la victoire à Pete Dunne, parce qu'on vous rappelle qu'il est censé être en clan avec Pete Dunne, hein, Oney Lorcan. On n'a toujours pas compris pourquoi. Mais il finit par s'embrouiller avec Austin Theory, hein, qui est lui au chevet de Gargano. Et donc la semaine prochaine, je crois qu'on aura un Oney Lorcan Austin Theory.
Ouais, je pense bien, oui.
Je crois que c'est du déjà vu aussi, ça. Oney Lorcan, donc. De son côté, DiBiase est interviewé encore une fois. Il s'intéresse à Cameron Grimes, hein, il nous explique. Mais il y a Adam Cole qui revient devant la caméra là, pendant l'interview. Et on va suivre du coup Adam Cole qui va jusqu'au ring et qui vient confronter Karrion Kross. Karrion Kross qui va arriver au ring. Il a pas peur, hein, Karrion Kross, il a peur de personne. Donc ça discute. Adam Cole va être très méchant, hein, il va traiter Karrion Kross de Mr. Overrated, Monsieur Surestimé. Il dit, regarde, t'es là, t'es balèze, t'es costaud, t'as la femme, c'est facile, hein, d'être le mec spécial. Mais tu sais ce qu'on fait pour rendre Adam Cole spécial? Eh bien, on a juste à ring the bell, on sonne la cloche, le match commence et c'est là que ça devient spécial. Quand Adam Cole est entre les cordes, il lui dit clairement, t'es même pas apte à faire les nœuds sur mes chaussures, hein. You can't lace my boots, comme on dit en anglais. Et voilà, je suis tellement meilleur que toi, je suis tellement plus talentueux. Tout le monde le sait, tous ceux qui regardent le pro wrestling, ils lâchent les mots pro wrestling, d'habitude ça se dit pas, hein, à la WWE. On parle de sport entertainment, mais ce soir, Adam Cole, il a le droit de sortir le mot pro wrestling, le catch professionnel. Tous ceux qui regardent le catch professionnel le savent, je suis bien meilleur que toi. Donc ça commence à faire sortir Karrion Kross de 2 secondes. Il y a Willa Brigal, hein, qui débarque aussi, mais qui ne peut pas faire grand-chose. Et Cross demande tout simplement à affronter non seulement Adam Cole, mais tout le monde. Il veut tout le monde. Et il organise donc un Fatal Five Way. Donc on aura Adam Cole, justement, Kyle O'Reilly, Johnny Gargano, Pete Dunne et Karrion Kross. Vous avez bien compté, ça fait 5 personnes. Un Fatal Five Way. C'est parti, ce sera Takeover in Your House. Et Adam Cole, lui, il va du côté des commentateurs, il démonte la table, il se pose dessus et il nous explique que c'est lui qui dirige le show. Donc voilà, le défi est lancé. Adam Cole en veut à la ceinture, il en veut à Karrion Kross. Et on mixe tout ça avec les contenders qu'on a eu en début de show. Et donc on a notre Fatal Five Way entre tout le monde. Du coup, t'as été convaincu par ce retour d'Adam Cole, ce face-à-face. T'as Adam Cole qui sort ses 4 vérités à Karrion Kross.
Ouais, les promos d'Adam Cole étaient intenses et pour le coup, il a plutôt trouvé des arguments qui faisaient mouche, hein, en expliquant effectivement que Karrion Kross était un gars sur qui on mettait beaucoup, investissait beaucoup de temps et de moyens pour le faire réussir, tandis que Adam Cole, ça reste un gars en slip. Ça, c'est pas totalement faux. Sur ce point-là, le reste après, bon, le fait que ça se finisse en match à 5, je l'ai senti venir assez vite personnellement, parce que je voyais pas Adam Cole piquer la place de tout le monde, ou alors c'était vraiment enterrer les trois autres cons. Là du coup ils vont être à 4 couillons à tourner autour de Karrion Kross, et puis ça va mettre certainement, ils vont certainement l'éliminer pour qu'à la fin ils reviennent et qu'ils éclatent tout le monde. Et s'ils pouvaient les éclater définitivement, ça serait bien, comme ça on passera à autre chose, parce que là on parlait des trois couillons qui tournent autour du main event depuis un bout de temps. Bah, Adam Cole, c'est le quatrième. Hein. Là, ça fait vraiment on a vraiment tous les cas un peu similaires. Bon, Adam Cole, il y a la différence que lui tient bien le micro, contrairement aux trois autres.
Ouais.
Mais sinon, c'est voilà. Bon, à la limite, quitte à avoir tous les mêmes gars qui viennent se positionner, autant tous les avoir d'un coup. Ça devrait être spectaculaire, mais voilà, j'espère vraiment qu'une fois que ce match sera terminé, Karrion Kross passera autre chose là, parce que moi j'en peux plus les voir. Ou alors il faut que eux changent quelque chose dans leur personnage et dans leur histoire. Je laisse une chance à Kyle O'Reilly qui du coup se retrouvera le seul face des 5. Putain, s'il arrive pas à s'imposer comme face à ce moment-là, on peut plus rien espérer de lui, quoi. Là, faut vraiment qu'il fasse quelque chose et qu'il joue le babyface à mort. Hein.
Ouais.
Voilà, il faut qu'il se distingue.
Mais j'ai peur qu'on soit sur un face turn d'Adam Cole et qu'on se tape cet arrêt-là et après un mois dans le mois de Cole Karrion Kross. Ouais, c'est quand même un sacré aveu d'échec. Hein. La possibilité de créer comme ça des stars qui sont susceptibles de faire le main event en un contre un. Que ce soit Gargano, que ce soit Pete Dunne ou Kyle O'Reilly ou même Adam Cole. Même Cross, hein, finalement, pour l'instant, il ne m'éveille pas trop. Les takeovers, généralement, il est un peu en dessous. C'est pas gagné pour créer les nouvelles stars qui vont nous faire lever de notre siège pour la WWE. J'aime bien Karrion Kross, hein, il est fort au micro, il est costaud. On voit tout doucement qu'il s'est catché quand même s'il n'a pas montré grand-chose pour l'instant. Mais alors, tout le reste, ils commencent à être épuisés de chez épuisés. Déjà, cramé avant d'arriver dans le main roster, si jamais ils y arrivent un jour.
Hein. Ouais, et voilà, ça c'est que non seulement ils n'arrivent pas à les renouveler pour donner quelque chose de nouveau avec eux, mais en plus ils sont en train de les user. Donc, alors après, à voir, hein, parce que tu sais, si tu tombes sur la bonne poule et que les mecs s'enflamment pour rien, Si ça se trouve, un mec comme Dunn ou Gargano, ils vont débarquer, ils vont aller vivre de la foule monstrueuse. Et puis ça va peut-être enchaîner derrière, quoi. Mais là, comme ça, moi, tu me les montres demain à Raw, bah, je ne serais pas du tout excité, quoi, en fait.
Ouais, ou alors il faudrait qu'ils arrivent d'une bonne manière. Alors, ils sont en train de faire de la place à Monday Night. Mais hormis Karrion Kross, il n'y en a aucun qui a un physique suffisant pour s'imposer dans le main roster. Hein. Ils sont tous trop petits, de toute façon.
Il est trop petit et puis. Et puis, pas assez massif en plus. Parce que tu peux être. Pas très grand, mais pas mal des pas très grands qui par leur physique assez massif arrivent quand même à répondre au main event. Alors c'est sûr qu'en ce moment Raw c'est tous des mecs de 2 mètres de haut, donc c'est un peu compliqué. Mais bon voilà, je dirais écoute, est-ce qu'il était beaucoup plus grand qu'eux, par exemple? Je suis pas sûr. AJ Styles, est-ce qu'il est beaucoup plus grand qu'eux? Mais par contre, au niveau ligne d'épaule, c'est autre chose, quoi. Là, surtout Adam Cole là, qui fait vraiment crevette parce que lui, il a même pas les muscles dessinés. Si peut-être moi je pense que Kyle O'Reilly pourrait éventuellement parce que je sais pas il a l'air comme moins petit que les autres. Alors, peut-être qu'il est pas plus grand finalement, mais de visu il semble moins petit, donc et c'est pareil, il faudrait qu'il s'épaississe et physiquement et en termes de personnalité, parce que enfin voilà, depuis qu'il nous a fait sa review avec son chapeau et ses lunettes de soleil avec Cameron Grimes il y a 4 semaines, depuis il est totalement transparent, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, il manque aussi, et il y a quand même une petite dose de charisme qui manque. Même s'ils ont, alors ils ont énormément de talent dans le ring, je pense que le match il risque d'être très impressionnant. Mais on va, c'est le match qui va être over et pas les catcheurs. Hein. J'en ai peur. Franchement, quand j'ai vu l'opener cette semaine, je me disais c'est le first contender pour le petit cruiserweight, quoi.
On est pas... Ça pourrait, hein.
Ouais, on est quand même loin. Enfin, je vois pas. Tu est-ce que tu vois un Bobby Lashley affronter Gargano ou Kyle O'Reilly? Est-ce qu'à un moment donné, on va se dire Kyle O'Reilly ou Gargano, ils ont une chance de battre un Bobby Lashley ou un Drew McIntyre?
En fait, c'est ce qui me fait penser. C'est bon que tu parles de ça, parce que du coup, ça me refait penser à une réflexion que je me faisais. Ça me fait penser un peu à ce qu'ils font à Raw avec Sheamus et tous les moucherons qui tournent autour là, en ce moment. Les Ricochet, Mansour, Cario. Et là, c'est exactement la même chose que j'ai avec Karrion Kross et tous les autres. Alors que bah, les autres, bah, autant Sheamus, tu sais que t'es avec des petits jeunes, que bah, voilà, ils tournent un peu autour, c'est l'occasion pour eux de se mettre un peu en lumière, tout ça. Autant là, bah, on te les prend en limite comme des main eventers, mais t'as personne qui semble avoir l'étoffe de l'être vraiment, quoi. Donc. C'est un peu bizarre comme sensation.
Ouais, surtout qu'on est quand même dans le show de développement. Donc je ne sais pas. Bon, reste qu'on aura sûrement un très joli Fatal Five Way. S'ils font ça sérieusement. Bon, on verra la suite hein, de tout ça. On va voir si Adam Cole y arrive à nous sortir encore des promos claques, comme il l'a fait là. Et puis, s'il peut s'imposer vraiment... C'est un peu l'occasion pour lui aussi de s'imposer à nouveau comme quelqu'un qui compte. On verra bien.
Ah bah, s'il s'en sort, effectivement, là, les autres, de toute façon, ouais. C'est... Comme il a eu... L'avantage qu'il a eu, c'est que lui, ça fait quelques semaines qu'on ne l'a pas vu. Donc, du coup, bah, il apparaît un poil plus frais.
Ouais. Parce qu'il peut dire Mister Overrated et tout. On lui a quand même tout donné, Adam Cole. Hein. Il est venu avec son propre clan. Il est arrivé très vite dans le main event. C'est pas le mec qui a été le plus mal loti à NXT. Hein.
Ah bah, il est arrivé directement en attaquant Brooke qui était champion de mémoire.
Ouais, c'est ça. La suite au prochain numéro. Retour dans les vestiaires, retour aux femmes. Candice LeRae et Indy Hartwell sont dans les vestiaires. Elles se préparent pour leur match de ce soir. Et Indy Hartwell, en fait, un Walkman sur les oreilles. Ça se dit encore Walkman? Je ne sais pas. En tout cas, elle a un casque, elle écoute de la musique. Et bon, Candice finit par l'engueuler, hein, tu vas te concentrer un petit peu, t'arrêtes d'écouter de la musique romantique de merde là. Elle pose le casque dans un coin, et évidemment, un petit peu plus tard, qui c'est qui débarque? Ce bon vieux Lover, ce bon vieux Dexter Lumis, qui récupère le casque, il écoute la musique, il a l'air fort satisfait. La romance continue entre Dexter Lumis et Indy Hartwell.
On démarre même.
Redémarre, parce qu'elles étaient fâchées.
Bah en fait, si, alors juste pour du coup faire le petit résumé des dernières semaines,
Ah.
nouvelle fois, voilà, le petit résumé de des Feux de l'amour. Donc, bah on se souvient que Candice avait offert des, enfin, on va formuler ça autrement, des cadeaux avaient été offerts à c'était Josie Blackheart et Ember Moon avec une petite carte offerte par Dr. Loomis.
Donc c'était magnifique.
Et donc du coup, bah, Indy Hartwell, elle a fini par dire non mais ok, il a fait. C'est un salopard, moi j'en veux plus, il m'a trahi, etc. Bref, je ne suis plus amoureuse de Dexter Lewis, qui ravissait Candice LeRae. D'ailleurs, elles ont été chercher les ceintures grâce à ça. Et en fait, on s'est rendu compte un peu plus tard que bah, c'était Candice LeRae qui avait payé en fait les fleurs et les cadeaux et les machins. Et du coup, bah, notre ami Indy Hartwell s'est dit ah, il m'aime encore, c'est trop beau. Sauf que bah, entre-temps, elle avait brisé le cœur de Dexter Lewis.
Ah là
Et que du
là
coup,
là
bah
là.
maintenant, bah voilà, ils sont tous les deux séparés, mais ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre et ils ne peuvent pas être ensemble. Et voilà, c'est pour ça qu'ils pleurent tous les deux en écoutant de la musique. Et que va-t-il se passer? Il y a notamment Beth Phoenix qui, à chaque fois qu'elle voit les deux apparaître à l'écran, est totalement fan en disant, mais c'est trop beau cette histoire d'amour, que va-t-il se passer? Et voilà, donc ça continue encore et encore.
C'est passionnant, émouvant. C'est ça aussi le catch, hein.
Ah, c'est de l'émotion.
On les reverra, les filles, un peu plus tard dans l'émission. C'est Xiali qu'elle s'appelle, c'est ça? J'ai juste.
Charlie, oui, tout à fait.
Xiali, elle veut casser la gueule de Mercedes Martinez. Alors je suppose qu'il s'est aussi passé quelque chose entre elles, mais elle est vraiment pas contente. Il y a tout un packaging vidéo où elle gueule comme un putois là sur Mercedes Martinez. Et après, on aura aussi un package de. Enfin, une interview face à face de. Enfin, une promo plutôt de Mercedes Martinez. Voilà, une promo où elle répond à Xiali, elle dit elle est prête à l'affronter. On va se castagner. Parce qu'ils se souviennent que. Faut se souvenir, pardon, que Mercedes Martinez a battu Xiali lors du
Meilleur
tournoi
classique.
Mae Young Classic. Voilà. Donc elles se connaissent quand même. Mais Mercedes avoue quand même que Xiali a bien changé depuis. Mais ça lui fait pas peur. Elle va quand même lui casser sa gueule. Voilà, bah, un adversaire un peu solide pour Xiali là.
Bah oui, c'est bien,
Pourquoi pas, ouais, je trouve sympa ça.
elle avait été bien pushée et puis d'un coup un peu disparue, puis là elle revient sur le devant de la scène. Alors pour le coup, il n'y a pas une grande construction parce que l'essentiel de construction s'est fait ce soir. Ça dure que depuis 2 semaines cette affaire avec bah, en fait la semaine dernière il y avait juste eu Mercedes Martinez qui avait la marque de Chiali qui s'était apparue sur sa main
Oh merde.
et on s'était dit oula il se passe un truc c'est magique etc. Et maintenant il explique et j'ai trouvé ça plutôt sympa qu'il fasse la référence au Mae Young classique parce qu'on se demandait pourquoi d'un coup elle était tombée dessus bah là c'est plutôt bien Chiali qui explique bah, que bah, lors de son pré-match à WWE l'autre elle l'avait démonté et qu'elle veut se venger depuis bah voilà, il y a quasiment pas de booking derrière, mais avec cette petite référence, bah, du coup, j'ai envie de voir la confrontation entre les deux et je crois que ça sera à TakeOver cette affaire en plus, hein, ce match.
Ouais, on espère.
Donc, bah voilà, il sort un peu de nulle part, mais j'ai envie de le voir.
Ouais, non, ça c'est des trucs, c'est sympa. Voilà, c'est ça qu'on a envie de voir. Xiali, c'est encore une rookie. Elle est en train de se construire. Elle a toujours été plutôt impressionnante, moi je trouve, dans ses matchs. Ça a toujours bien fonctionné. Mercedes Martinez, c'est une vétéran qui sait mettre en valeur ses adversaires. Donc voilà, c'est plutôt sympa, hein. Surtout qu'on veut en savoir plus un petit peu sur le Xiali. Tout ça, c'est bien cool. Open Challenge pour le titre
Allons-y.
Cruiserweight. C'est ce bon vieux Kushida qui lance un Open Challenge. Vous la connaissez cette histoire. Et bien ce soir, on a un petit package vidéo qui nous présente son aspirant du soir. Il s'appelle. Enfin, on le connaissait dans le monde indie sous le nom de Christian Casanova. Il a été signé en février 2021 par la WWE. Donc, c'est-à-dire il y a 4 mois. Alors qu'il y a des charrettes dans tous les sens, lui, il a été signé, Christian Casanova. Et aujourd'hui, il porte le nom de Carmelo Hayes. Et ce soir, donc, il affronte Kushida. Bon, Christian Casanova, si vous ne le connaissez pas, alors on va l'appeler Carmelo Hayes maintenant, puisque personne n'appellera jamais Carmelo. Christian Casanova, pardon. Et ben, si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Et ça fait un moment, je crois, qu'il catch depuis 2008. Mais vraiment dans des fédérations indie vraiment pas très enfin bon, connues mais c'est pas les plus hautes du business hein, Limitless Wrestling Beyond Wrestling, choses comme ça. C'est pas connu non plus pour des shows vraiment de référence. Mais en tout cas, bon, il a un bon physique quand même. Il fait des jolis drop kicks. Assez impressionnant face à Kushida, qui aura quand même du mal à avoir le dessus, mais qui finira par faire abandonner Carmelo avec une Kimura, ça s'appelle, sa clé de bras. Victoire de Kushida et félicitations à Carmelo Hayes qui s'est bien battu. Est-ce que tu as été convaincu par ce nouveau catcheur?
Alors, j'étais convaincu quand je l'ai vu entrer en ring, je me suis dit, ah, il y a quand même physique intéressant. Pour le coup, on parlait de mec bien charpenté. Lui, il a les bonnes épaules. Voilà, il a un bon vrai physique de catcheur, quoi. Il est sympa et effectivement, il bouge bien. Par contre, j'ai trouvé le match catastrophique. Les deux se comprenaient absolument pas. Ils passaient leur temps à freiner, à accélérer, à se louper. Alors voilà, s'il arrivait depuis quelques mois et Kutilo qui ne doit pas encore être adapté au catch nord-américain, même si bah, je trouve que ces derniers matchs étaient plutôt bons. Et là, je pense que le fait d'avoir un nouveau en face de lui, ça n'a pas dû aider. Et j'ai trouvé qu'il ne se comprenait absolument pas. Et donc, j'ai trouvé le match très mauvais. Cependant, voilà, comme c'est un nouveau, on va lui laisser le temps de s'intégrer. Mais voilà. Donc, je me suis dit, voilà. Le mec a l'air intéressant comme ça, de visu. Mais par contre, le match, pas du tout bon. Voilà, à refaire.
À refaire. Ouais, bah oui, hein, c'est un peu dur d'envoyer des rookies contre Kushida. Qui effectivement, comme tu dis, il n'est pas encore adapté à 100% au style nord-américain, comme tu dis, style WWE. Christian Casanova, il ressemble, c'est quand même un peu le même type de catcheur qu'on trouve un peu partout en ce moment. Bon, il a un physique un peu plus charpenté que le reste, mais t'as quand même pas beaucoup de différence avec, je sais pas, un Isaiah Swerve Scott ou...
Oh, il est comme plus épais que Swerve Scott.
Ouais, il est plus épais, mais il catch à peu près pareil quand même.
Ouais, mais bon, au moins, t'as moins l'impression de voir un clochard se battre, quoi. Enfin...
C'est pas faux. Il tient quand même son physique. Bon, bah, on verra bien ce qu'il va nous donner dans la suite. Ton Carmelo Hayes, souvenez-vous de son nom. Il fera peut-être une carrière.
Mais c'est quand même étonnant. Pour la prochaine charrette.
Ouais, c'est quand même étonnant qu'il l'ait signé en février, quoi. Alors, je sais pas comment ça fonctionne leur. Enfin, il se passe des trucs bizarres, la WWE, en ce moment.
Ouais, après, il faut voir les niveaux des contrats.
Il n'est peut-être pas payé cher. Peut-être mais le gars, il est signé en février, on est en juin, il catch déjà la télé, quoi.
C'est très impressionnant à l'entraînement.
Ouais, c'est ça. Pensons à tous ceux qui sont derrière les plexiglas, là, à faire la claque. Ça doit la foutre mauvaise. Allez, d'autres personnes qui ont grillé la priorité à tout le monde, MSK, MSKin, les champions par équipe. Ils nous font une petite promo dans les coulisses. Ils sont remontés comme des coucous suisses. All night, all day. Ils vont battre les gados d'El Fantasma ce soir. C'est garanti. C'est vos nouveaux champions, les MSK. Limiskin. Oui, on en reparlera un peu plus tard. Francky Monet est dans les vestiaires avec des grosses tatas, là. Elle se remaquille. Elle lit un petit peu les commentaires sur ses débuts à NXT. C'est plutôt positif. Et elle nous explique que ça ne fait que commencer. Tu as vu, toi, les débuts de Francky Monet? Parce que moi, du coup, j'ai pas vu.
Oui, bah, c'était la semaine dernière. Du coup, bon, un match contre la... Il me semble que c'est contre la petite jeune là, qui avait battu Tony Storm.
Zéder Ramier.
Il me semble, hein, je ne suis plus sûr, en fait. Il y avait rien de particulier, là, pour le coup. Elle dit que c'était un match qui avait ébloui tout le monde. Moi, franchement, bon, c'était un début classique. J'attends de l'avoir contre une vraie catcheuse, quoi.
Ok, all right. Francky Monet, une catcheuse qui compte. On reste chez les filles. Zoé Stark et Zaïda Ramier affrontent The Way, les championnes Candice LeRae et Indy Hartwell. Zoé Stark, quand même, elle est impressionnante. Zaïda Ramier, elle est pas mal, mais elle fait 1m20. Elle n'est pas très crédible. Moi, j'aime beaucoup Indy Hartwell. Je trouve quand même très impressionnante dans le ring. J'aime bien son physique, j'aime bien sa manière de catcher là, avec ses grosses descentes du coude. C'est la victoire des championnes, évidemment, avec l'enchaînement de finishers là, de Candice et d'Indy. Grosse descente du coude, hein, comme je l'ai dit, d'Indy Hartwell. Zoé Stark n'a pas démérité. Zeyda Ramier, bon, elle a du talent, hein, mais j'ai un peu du mal à la. À adhérer à des catcheuses qui ont des gabarits aussi petits. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce petit match d'exhibition?
Ouais,
T'aimes bien, toi,
vraiment pas
Zeyda?
grand-chose.
Pas grand-chose.
Vraiment pas grand-chose. Je sais pas que je sais même pas si j'ai vraiment regardé attentivement. J'étais pas. Il sort un peu nulle part et il repartit un peu nulle part
Bah, c'était
ce
pour
petit
qu'on gagne
match.
en Ukraine.
Mais je suis comme toi, je suis d'accord avec toi. J'aime bien Eider Tuel et j'aimerais bien qu'elle prenne le dessus dans sa tag team parce que je l'ai pas encore. C'est quand on parlait de Raquel Gonzalez, c'est un peu pareil pour elle. On sent qu'elle est encore un peu green sur certains aspects. Mais ça commence vraiment à devenir intéressant. Donc,
Ouais.
je la suis avec intérêt.
Ouais, bah pareil. Non, bah, je trouve qu'elle est bien là où elle est. Progresse doucement, mais sûrement. Pas de fausses notes. Elle ne démérite pas à côté de Candice LeRae. J'aime vraiment beaucoup cette catcheuse. Moi qui ne m'intéresse pas trop au catch féminin. Je peux dire que je suis sous le charme. Une nouvelle pub pour Diamond Mine. Ça ouvre bientôt.
On
C'est
espère un jour, hein.
un centre d'entraînement pour des gens qui font peut-être du mixed martial art. Ça ressemble quand même à du Raw Underground, hein, j'ai peur.
Ouais,
Mais
bah, j'ai
bien.
eu ce sentiment-là au début. On m'a après, on les gens avaient plutôt l'air de dire que ça serait un clan. J'ai comme l'impression que c'est du underground. Par contre, qui tu vas mettre dedans?
Bah, je sais pas. Ils doivent avoir du monde quand même dans les vestiaires qu'on connaît pas, hein, au Performance Center. Mais
D'accord.
effectivement, il n'y a pas grand-chose qui fuite sur ce que ça peut être.
Est-ce
Donc on
qu'ils le
verra
savent
bien.
seulement?
Ouais, est-ce qu'ils le savent seulement? Ils ont trouvé une vidéo, ils l'ont passée sans faire exprès. Un truc qui avait été enregistré qui n'a rien à voir. Quoi, je pense pas que c'est un mec qui s'appelle Diamond Mine, quoi.
Ah, bon, pour moi, c'est un clan.
C'est un
Après,
clan, hein,
on
ou
verra,
un.
mais. Et je vois, si ça se trouve, ils vont dire un jour, bon, bah, alors attends, on va prendre Aliyah, on va prendre. Je
Machin.
sais pas moi, Cameron Grimes, allez hop, on va prendre n'importe quel con qui passe et puis hop, hey, Diamond Mine.
On leur met des masques et puis ils cassent un
Voilà.
transformateur, ils
Trop
foutent le
trop
feu.
sonneuse pour couper des
Une
cordes et puis allez-y les gars.
invasion. Ça va aller loin tout ça. Ouais. Bon, bah, on n'en saura pas plus. C'est l'heure du main event. Le
Oui.
championnat tag team est défendu. Les Mexicains de Legado del Fantasma, donc Joaquin Wild et Raúl Mendoza, affrontent les Miskin, Wesley et je sais plus comment. Donc, gros match tag team, hein. Évidemment, ça saute partout. On se croirait à la X Division, encore une fois, de Impact Wrestling. Les MSK, quand même, ils arrivent, Laurent, ils sautent partout, ils tirent la langue, ils font pitié un petit peu. Mais bon, peut-être que ça marche chez les jeunes, ça, je sais pas. Donc, ça se fout sur la gueule. À un moment donné, il y a les Young Grizzlies qui débarquent. Donc, Gibson et Drake, je crois qu'il s'appelle l'autre. Mais bah, ils restent pas longtemps parce qu'ils sont vite attaqués par Timothy Thatcher et bordel de merde, comment il s'appelle?
Oui, merde, j'oublie du coup.
L'ancien pote à Gargano,
Champa.
Ciampa, Tommaso Ciampa, voilà. Ils débarquent et ils attaquent tout de suite les Young Grizzlies vétérans, donc ils ont le temps de rien faire. Ça part sous le Titantron, ça retourne dans les vestiaires. Merci d'être passé. J'étais pas du tout content de les voir, hein, les Young Grizzlies vétérans, je suis qu'ils soient fait éjecter assez rapidement. Le match continue. Il y a Santos Escobar quand même qui est venu accompagner ses copains de Legado del Fantasma, qui va interférer dans le match. Il va s'occuper d'un des deux d'MSK, Wesley, je crois, et l'envoyer dans les escaliers de fer. Mais ça suffira pas pour la victoire de MSK. Surtout qu'il y a quand même Bronson Reed qui débarque à un moment donné de on ne sait pas d'où. Du Diable Vauvert, il vient et il est Santos Escobar contre les plexiglas. Hein, vous voyez le gros Bronson Reed là, entre Bam Bam Bigelow et je ne sais pas qui. Il débarque et il écrase Santos. Ça permet à MSK de reprendre un peu le contrôle du match et de placer leur finisher pour la victoire. Donc les champions conservent leur titre après un match acharné. Legado del Fantasma n'a pas démérité. Santos Escobar s'est fait aplatir. Bronson Reed était là aussi. Les Young Grizzlies vétérans et Ciampa et Thatcher nous sont venus faire un petit coucou, mais sans grand intérêt. Est-ce que tu as été comblé par ce main event?
Alors, j'ai un souci avec ce main event, mais alors c'est pas du tout lié à NXT. C'est lié à moi, c'est qu'en fait je me suis fait spoiler le résultat avant de le regarder. Et donc du coup, un match pour une ceinture quand t'as déjà le résultat, ça enlève déjà une grosse partie de l'intérêt.
Ouais.
Et malheureusement, du coup, j'ai pas réussi à emballer pour ce match qui était pourtant plutôt bon parce qu'en plus j'aime bien les deux équipes. Même si Meskin, pour l'instant, j'ai toujours un peu les pauvres Meskin, j'ai toujours du mal à les distinguer l'un l'autre. Même si ils se ressemblent pas, mais bon, j'y arrive pas quand même pour l'instant. Mais voilà, j'ai besoin il faut qu'ils trouvent un truc dans leur personnalité. J'arrive pas à associer leur nom avec leur tronche pour l'instant. Mais voilà, les Logado de Fantasma, j'aime bien aussi. J'ai bien aimé Bronson Reed qui vient éclater le chef de les gars des héros de Fantasma, qui est donc Santos Escobar. Le plexi là, ça faisait vraiment la grenouille qui s'est écrasée par un camion.
Ouais.
Les autres cons qui sont intervenus, qui se sont fait chasser, bah, effectivement, je pense que c'était rendu superflu ça pour le coup. Ça n'avait pas intérêt. Voilà, donc bah, bon match. Je m'en veux juste moi-même d'avoir été spoilé avant et du coup de ne pas avoir eu le suspense du résultat.
Ouais, c'est un peu pareil. Je savais que les gars de Del Fantasma avaient gagné, donc du coup.
Perdu, pardon.
Ouais. Du coup, ça enlève un peu de la salle. C'était quand même une affiche qui méritait d'être à Takeover, ça. Les gars de Del Fantasma, ils méritent quand même d'avoir une vraie chance pour le titre. Pas juste un petit match en weekly. C'est peut-être un peu ce qui est délicat dans cette histoire, c'est-à-dire que je trouve que Legado del Fantasma est plus impressionnant que les MSK, qui sont quand même très impressionnants, oui. Mais ils font quand même plus catcheur, Legado del Fantasma, enfin plus, je sais pas, plus crédible. Alors peut-être parce qu'ils ont plus d'expérience, peut-être que ça fait un peu plus de temps qu'ils sont à NXT et du coup, ils savent comment se poser un peu plus qu'MSK, mais ils les ont peut-être pushés un peu vite, un peu trop haut les mesquines. Hein. Du coup, on a plutôt envie d'être derrière les gados del Fantasma. Enfin, je sais pas si.
Ouais, et puis il y a aussi le fait que bah, les gados del Fantasma, là, ils perdent et donc tu sens que c'est les challengers de transition. Et les autres challengers qui sont derrière, ils sont pas forcément plus intéressants. Là, les Grizzly Young Veterans ou Ciampa et Thatcher, j'ai pas envie de plus les voir que les gars de Le Fantasma qui pour le coup sont un clan plutôt bien foutu. Ils ont fait des segments micro sympas dans le passé, enfin voilà, ils ont une identité, ils ont un catch bien aussi sympa, ils pourraient passer face je pense. Alors ouais, c'est chiant parce qu'ils font partie d'un clan, mais ils ont un catch qui pourrait totalement passer côté face. Ouais, j'ai le même sentiment que toi, je me dis toujours c'est dommage parce qu'ils tiennent quelque chose avec eux et pourtant t'as l'impression que c'est eux qui mettent en transition, donc c'est un poil dommage.
Ouais. Et puis ils auraient peut-être mieux fait de faire une team Gargano Theory pour aller affronter MSK plutôt que d'essayer de faire un Globipulga là avec Ciampa, Thatcher et les Young Grizzlies vétérans où on sait très bien que ça arrivera à rien tout ça.
Ouais, mais Gargano il est à Takeover en solo donc forcément il peut pas être d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Hein. Il faut toujours qu'il soit dans le main event de Takeover. C'est un peu dommage. Ça pilonne un peu ce main event qui était quand même de très bonne qualité, hein, j'ai envie de dire.
Oui.
Bah voilà, on a fait le tour de ce NXT du 1er juin. Je crois bien qu'on n'a rien oublié. Donc du coup, quand on a fait le tour, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste le mot de la fin. Il faut donner un top, il faut donner un flop et il faut donner une note.
Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Le flop, je vais le donner à Kyle O'Reilly pour les raisons que j'ai expliquées depuis le début du show. C'est que j'ai l'impression qu'il ne saisit pas sa chance ou alors on lui donne plus parce qu'il n'a pas convaincu, j'en sais rien. Mais peut-être que dans 2 mois, ça sera totalement l'inverse et ça sera une méga star. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est le seul face d'une grosse rivalité et puis il est totalement éteint. Un peu comme Cesaro dans le main roster avec SmackDown, mais là, je trouve que c'est en 100 fois pire qu'Kyle O'Reilly. Il est totalement, totalement éteint, et alors que ça devrait être son moment, c'est un des seuls faces identifiés dans le roster NXT, puis bah, il ne fait rien. Donc, bon, voilà. Donc, mon flop à O'Reilly qui ne prend pas sa chance. Mon top, du coup, je le donnais au main event sans trop de conviction, mais en même temps, c'est un peu ce qui se faisait le mieux au niveau catchesque. Et puis voilà, un bon match de catch sur Main Event, c'est toujours appréciable. Donc je vais donner mon top à eux. Et ma note, je donne une assez mauvaise note quand même, parce que et c'est un peu un schéma que je retrouve dans un peu tous les shows en ce moment de la WWE. J'ai l'impression qu'ils pataugent là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ils arrivent pas à mettre les. Et t'as deux, trois gars qui tirent la banque du jeu, mais tout le reste, ça patauge un peu là. Et je sais pas pourquoi. Et NXT, c'est encore plus fort parce que du coup, il y a vraiment pas beaucoup de têtes d'affiche, voire pas du tout. Chez les filles, il y a Yoshirai qui est totalement disparu. Et Raquel qui est championne, mais qu'on voit très peu. Puis quand elle est là, elle se fait latter la gueule. Alors qu'elle fait 2 mètres de haut, enfin je comprends pas. Et puis chez les mecs, voilà, on disait, hein, t'as Karrion Kross qui a tous les nains qui tournent autour. Kushida, moi je l'aime bien, mais par contre, ce serait bien de lui trouver un adversaire maintenant qu'il n'y a plus
Escobar.
Santos Escobar, voilà. Titre nord-américain, on espère que Bronson Reed va réussir à en faire quelque chose. Mais voilà, ça manque de pêche là. Et les mecs qui devraient être en valeur, ils le sont pas forcément. Ouais, tu parlais tout à l'heure de la comparatif avec AEW, et j'ai ce sentiment là. J'ai ce sentiment que tu veux être plein de monde en même temps en valeur. Et du coup, tu mets personne en valeur. Et voilà, ils sont trop nombreux NXT, là. Alors, je vais pas sauter une charrette, mais par contre, il faudrait peut-être mieux choisir les gars à mettre en valeur. On parlait de Shelly, par exemple, chez les filles. Voilà, si on veut y aller avec elle, faut y aller à fond. Faut la mettre en valeur plusieurs semaines de suite. Faut qu'elle gagne sa rivalité. Et puis ensuite, on continue, on déroule. Faut pas qu'elle soit là une semaine, puis après on la voit pas pendant 3 semaines, puis on la revoit. Enfin, je trouve, c'est ce que fait l'AEW. J'aime pas du tout ce système-là, et je veux pas que NXT prenne cette route-là. Je veux qu'ils identifient des mecs et puis qu'ils travaillent avec eux, puis qu'ils les mettent en valeur. Pas qu'ils nous bossent 40 gars en même temps, puis que au final personne ne ressorte. Donc du coup, je vais donner ma note. Je vais donner à simplement 2. Voilà, le main event sauve un peu la note, mais voilà, faut absolument redresser la barre NXT.
Ouais, et ben écoute, je te rejoins. Tu m'as complètement convaincu. Effectivement, c'est un truc que je ressens aussi, cette façon de faire qui ressemble pas mal à la All Elite Wrestling, avec des matchs spectaculaires. Alors, on va me dire, c'est bizarre quand même, mais où tout le monde essaye de briller et au final, personne ne brille. L'espèce de mise en avant de la division tag team. Alors bon, il y a toujours une grosse division tag team à NXT. C'est pas le problème, mais c'est pareil, y a trop de personnes qui sont impliquées. Et au final, il y a personne qui tire son épingle du jeu. Il n'y a plus de squash. Il y a que des matchs compétitifs. Hein. On a vu entre LA Knight et Jack Atlas, c'était très compétitif. Le Kushida, Carmelo Hayes, c'était
Aise.
pareil, très compétitif. Donc du coup, effectivement, c'est une manière de faire qui ressemble pas mal à la All Elite Wrestling. Je suppose, hein, qui s'inspire du truc quand même, hein, ça sort pas de nulle part. Je reste persuadé que c'est pas la bonne manière de faire. Les ratings auront tendance à nous donner raison, je pense. Mais on en est là. Et effectivement, je vais mettre la même note que toi, je vais mettre un 2. Je vais donner mon top à Ember Moon, parce que je trouve qu'elle a été impeccable dans son cassage de gueule de Raquel Gonzalez.
Bon choix.
Et je vais donner mon flop. Si je le donne pas à Kyle O'Reilly, je vais le donner à Pete Dunne, qui a pas été très convaincant, je trouve, pendant le match. Faut qu'il arrête aussi avec ses cassages de doigts et c'est tout ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans son catch. Il y a des passages quand même où il était assez ridicule, je trouve. Alors pourtant, j'adore Pete Dunne. Hein, je trouve qu'il a fait des matchs qui étaient énormes l'année dernière, l'année d'avant. Maintenant, il y a à faire des gros matchs en pay-per-view et il y a assurer quand on est en weekly chaque semaine. Et il a ce défaut de beaucoup de catcheurs qui ont un peu trop travaillé à l'indie, qui sont pas trop capables de faire des matchs de weekly, du moins pas des matchs de weekly intéressants. C'est un peu la limite de Pete Dunne s'il veut bosser à la télé dans les années qui viennent. Il paye le prix, hein, du fait d'avoir voulu essayer de pousser tout le monde en même temps. Et finalement, on est vachement déçu. Et on reste sur notre faim. Tout que c'est censé être le moment de Karrion Kross quand même. Alors j'espère que Karrion Kross va démonter tout le monde Faut qu'on se dévoue hein, quand même. Hein.
Qui les tue, là, franchement.
Ouais. Et qui reçoit triomphant Roman Reigns style, hein, j'ai envie de dire.
Ou Brock Lesnar style, enfin voilà.
Brock
on est
Lesnar
d'accord,
style,
il faut,
voilà.
Il, voilà, il faut qu'il tue tout le monde, là.
Hein, on est... Il y a un mec qui doit être au-dessus du lot, c'est Karrion Kross en ce moment. Le reste, de toute façon, ils sont cramés. Hein. Je les aime tous, hein. C'est des mecs qui m'ont fait rêver dans le circuit indie, à la Ring of Honor et tout ça. Mais là, pour le futur de la WWE, faut quand même sérieusement penser à construire des mecs qui soient crédibles quand ils arrivent sur USA ou sur Fox TV. Hein. Et je pense pas que les crevettes de la Ring of Honor, ce soient les bonnes personnes.
Surtout pour faire ça, mais effectivement, il prendrait juste le temps de... Je sais pas quoi dire. Ils en prendraient un parmi tous ceux-là en disant, tiens, je travaille un peu le personnage, tout ça. Et les autres, je les mets sur autre chose. J'en mets un en tag team, j'en mets un avec Kushida. Parce qu'en plus, ils pourraient tous aller chercher le titre de Kushida, comme tu disais. On dirait des contendeurs au titre conservate. Tu les dispatcherais tous un peu, là, quitte à en éloigner du main event et t'en travaillerais vraiment un bien. Tu t'arriveras peut-être à faire quelque chose, en fait. Mais là, voilà. C'est ni fait ni à faire.
Ouais. Glooby Bulga. Bon, bah voilà, c'était un peu triste, hein, mais c'est notre constat de la semaine. On vit une période assez sombre hein, pour le catch, là, depuis une semaine. Les ratings sont en berne, que ce soit à SmackDown, à Raw, même du côté de la Elite, All Elite Wrestling. Ils ont atteint le fond du fond, là. Ils ont été déplacés le vendredi, et du coup, le public n'a pas suivi. On est aux alentours de 500 téléspectateurs. Au Raw, on est à 1,5 million, je crois, et SmackDown, on est en dessous des 2 millions.
Mm.
Alors, il y a le côté...
Basket.
Il y a le basket, il y a le Thunderdome quand même qui est usant, la gueule de bois après WrestleMania. On espère que le retour du public va sauver la situation. Mais en tout cas, c'est une période sombre pour les fans de catch. Hein. Je ne sais pas comment tu le sens, mais...
Ouais, et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a 2-3 semaines à peine, c'était pas si mal en fait. Je trouvais que même Raw était en train de se relancer. Et puis là, d'un coup, ça a plongé. En fait, c'est... C'est marrant parce que c'est, alors je sais pas si c'est lié ou pas, mais c'est au moment où ils ont dit attention, les ratings vont être moins bons parce qu'il y a le basket qui arrive en face. Et ben d'un coup, les émissions sont devenues moins bonnes elles-mêmes. Alors est-ce que du coup, ils ont voulu tenter un autre style pour se démarquer ou ils se sont dit, on fait aucun effort, de toute façon, on va prendre une branlée, donc autant garder les bonnes histoires pour après. Peut-être, hein, c'est peut-être ça, peut-être que du coup, ils voient le public arriver dans maintenant un peu plus d'un mois. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, surtout, on ne touche plus à rien, on fait de la...
On garde toutes les bonnes idées. On laisse traîner les choses.
Et là, on laisse traîner. Mais du coup, c'est là, depuis 2-3 semaines, ça a plongé, mais sévère. Hein.
Ouais, sévèrement. On n'est pas content. C'est difficile de se motiver pour regarder tout ça. Après, voilà, Pritchard, Pritchard, le showrunner de la WWE, en règle générale, ce Raw, SmackDown, alors je ne sais pas s'il est impliqué dans NXT. Le mec il a quand même longtemps bossé à la TNA et la TNA dans le genre je mange un truc et je m'arrête en cours de route et après on se fait chier pendant 3 mois, c'était un bon spécialiste quand même hein. Alors j'espère qu'il a pas pris le mauvais pli parce que c'est aussi un mec qui était là pendant les grandes heures de la WWE, mais faire du remplissage avec des shows moyens il sait faire et je sais qu'il y a beaucoup de gens d'anciens de la TNA qui sont maintenant à la WWE dans la production. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qui handicape le produit à l'heure actuelle. Et surtout que je pense que Vince McMahon, il ne doit plus être aussi impliqué qu'il l'était avant. Ce qui fait que ça explique un petit peu le côté anecdotique des shows. Hein, parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il n'y a rien qui ressort. Hein.
Bah, t'as même pas un truc fun, t'as même pas un truc... Je sais pas moi, tu sais, t'as une époque où t'avais des shows, je repensais, je sais pas pourquoi, à la Fashion Police l'autre jour. Tu vois, c'est un truc, c'est tout con quoi, mais tu sais, te prends 5 minutes par show, puis tu t'éclates. Là, t'as rien, t'as pas l'occasion de sourire, t'as pas un mec ou des mystères, tu sais, Alors si, ils vont lancer peut-être un mystère à SmackDown, là, petit aparté en qui a tapé Rey Mysterio la semaine dernière, donc peut-être que ça a lancé quelque chose. Mais c'est vrai que ça, voilà, ça manque de rivalité, de mecs qui. Enfin, je sais pas, ça manque d'histoire. Voilà, ils ont pas, t'as l'impression qu'ils ont rien à raconter.
Ouais. C'est sec. C'est sec, comme je le disais, c'est pas la meilleure période pour être fan de la WWE, fan de catch en général. On va croiser les doigts en attendant le retour du public. Hein. Il y a déjà plusieurs tournées qui sont prévues. Là, NXT va repartir sur les routes de Floride. Donc il y a moyen que ça redonne un petit peu de peps aux émissions. Mais en attendant, on va ronger notre frein et on sera là normalement la semaine prochaine pour vous raconter la suite du show Noir et Or. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Pour l'instant, bah, j'ai plus qu'à vous faire l'autopromo. Alors vous savez qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube et comme je vous l'ai dit en début d'émission, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parce que c'est toujours gratos. Vous cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'on a un de nos nombreux programmes qui sort. On est sur les réseaux sociaux, très très actifs sur Twitter. On est aussi sur Facebook, on est sur Instagram. C'est @catchupcdc sur Twitter. N'oubliez pas d'aller écouter tout ce qui est sorti, You Talk Too Much avec Axel des Cahiers du Catch. L'émission spéciale 5 ans. On a toujours une très belle interview, alors vraiment excellente, de certain Jean Brassard, la voix francophone de la WWE. J'aime vraiment beaucoup cette interview.
Pleine d'émotions.
Pleine d'émotions. Voilà, il vous raconte tout sur sa carrière. C'est un grand plaisir pour moi de faire cette interview. Et puis, que sais-je encore, le comptoir du catch. On vous parle de The Fiend. Voilà, il y a plein d'autres trucs qui sont prévus. Vous pouvez là encore écouter nos rétro catch-up où on parle de shows plus anciens de la WWE. On y reviendra bientôt, je pense, avec un spécial Money in the Bank pour le grand
anniversaire. Ça arrive.
Ça arrive doucement, mais sûrement. Enfin, voilà, restez à l'écoute. On a plein de programmes pour vous. Vous pouvez aussi venir sur Discord. L'invitation est dans la description. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu.
Ben, merci à toi, Ringside, pour ce retour d'Annexi après ces petites semaines de vacances.
Voilà, hein, on aura loupé quelques semaines, mais vous ne nous en voudrez pas trop. C'est toujours un petit peu difficile de tout caser. Écoute, c'est toujours un plaisir hein, de reviewer tout ça avec toi. Et puis, ben, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt, hein, les amis. On va pas tourner autour du pot, l'émission est finie. Ciao, bye bye les enfants, à bientôt.
Allez, salut, on se casse tous. Salut à tous, salut Ringside.
Ciao, ciao.
C'est un show pas terrible.
Pas terrible, pas terrible. Connard de Craig en plus.
Bah ça.